Sur 9 à 12h38, nous sommes jeudi, les rendez-vous de midi. Le jeudi, on parle économie jusqu'à 13h et en direct. Et votre invité aujourd'hui, Emmanuel, Elisabeth Wattebled.
Oui, les jeudis de l'économie, on prend la direction aujourd'hui de l'île de Noirmoutier avec un groupement important, une coopérative importante. C'est la coopérative de Sel. Et une belle actualité, un été record déjà, et une participation au CIAL cette semaine avec l'annonce de la labellisation agri-éthique. C'est une première en France. Nous accueillons avec beaucoup de joie une saunière et présidente de la coopérative. Bonjour Elisabeth Wattebled.
Bonjour Emmanuel.
Alors je vous ai reçu il y a quelques semaines maintenant dans le cadre de la biodiversité samedi. C'était déjà passionnant. Je suis ravie de vous recevoir pour parler vraiment de votre métier, de toute cette actualité qui vous entoure évidemment. Vous êtes donc présidente de la coopérative depuis combien d'années maintenant ?
Alors présidente depuis septembre 2020.
Et saunière depuis
2018.
Depuis très peu de temps en fait. Hein.
C'est ça.
Alors racontez-nous un petit peu ce qui vous a attiré d'abord dans ce métier puis aussi sur l'île de Noirmoutier.
Effectivement, c'est d'ailleurs d'abord le métier qui m'a attiré avant que ce soit l'île. Hein, c'est que j'ai cherché, c'est une sorte de crise de la quarantaine, hein, faut pas se mentir, ou avec une envie d'avoir un métier qui soit vraiment très très concret, très concrètement utile, et avec une vision environnementale très très forte, parce que ça fait partie de mes valeurs. Et donc j'ai cherché pendant plusieurs années ce qui pouvait correspondre à cette envie-là, on va dire. Et quand je suis tombé par hasard, hein, en tant que touriste, finalement, sur des sauniers. Là, je me suis dit que ça cochait toutes les cases, quoi, que ça répondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et donc, après, il a fallu effectivement chercher mais où, puisqu'il y a plusieurs lieux possibles. Hein, je ne suis pas du tout du département, ni même de la région. Et j'ai eu un coup de cœur pour Noirmoutier, c'est clair. C'est une île formidable.
Alors forcément, j'ai envie de vous demander où vous étiez avant et quel métier exerciez-vous.
Alors avant, j'ai pas mal bougé. Mon dernier lieu, c'était Lyon, et j'étais ingénieur travaux publics.
Donc rien à voir ou presque.
Rien à voir.
Il a fallu vous former.
Absolument.
Alors on a beaucoup de sauniers et saunières qui sont en reconversion. En tout cas, j'en rencontre beaucoup. Oui. C'est un métier voilà qui effectivement attire au cours de la vie pour ses qualités naturelles. Vous allez travailler en extérieur, vous allez travailler sur un produit complètement naturel.
C'est ça. Je pense qu'en fait, les gens qui viennent en reconversion professionnelle, c'est vraiment lié à des valeurs, à des envies de faire les choses de manière saine, de manière utile pour nos contemporains et pour les générations suivantes. Donc il y a une vraie démarche, parce que c'est un métier sur lequel on vient pas là pour faire de l'argent, quoi, parce qu'on n'est pas, c'est un métier qui est physiquement difficile et sur lequel on gagne pas des mille et des cents. Donc les reconversions professionnelles, c'est vraiment des reconversions de conviction.
Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes un certain nombre de femmes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une équité sur l'île entre les saunières et les sauniers et d'hommes à être actifs. Enfin, sur l'île, évidemment, dans le nord-ouest Vendée, tous font partie sur l'île de la coopérative.
Donc non, en fait, sur la coopérative, donc la coopérative regroupe une centaine de sauniers et saunières, et il y a environ une trentaine d'indépendants qui vendent directement et qui passent pas par la coopérative. Et en termes de répartition hommes-femmes, bah là, je peux parler vraiment que de ce que je connais, donc la coopérative. On est responsable d'exploitation, il y a 25% de femmes sont responsables d'exploitation. Et après, on sait que beaucoup de gens en fait travaillent en couple sur leur marais, donc le nombre de femmes présentes sur les marais est plus important que juste 25%.
Ouais. Évidemment. Et je trouve formidable, vous êtes arrivé en 2018, très rapidement, vous prenez des responsabilités dans la coopérative, donc l'acceptation a été aussi très rapide.
Oui, ça c'est une vraie surprise. Hein. C'était pas mon ambition. Et puis voilà. Enfin, moi je voulais rentrer dans un conseil d'administration, parce que c'est l'intérêt d'une coopérative, c'est qu'effectivement, plutôt que quand on vend à un négociant, en fait, on négocie juste le prix quand on est en position de le négocier, et puis après c'est tout, quoi. Alors que quand on est dans une coopérative, tous les coopérateurs justement en fait votent, élisent leurs représentants qui eux font la stratégie, décident des grandes orientations. Donc je m'étais dit que un de ces quatre, effectivement, j'aimerais bien participer à cette construction-là. En plus, avec mon passé, bon voilà, je sais que j'ai quelques atouts, je pouvais mettre au service de la coopérative, donc ça m'intéressait bien. Et par contre, effectivement, bah, les choses se sont faites beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé, parce que bah, le contexte était comme ça à ce moment-là, quoi.
Alors justement, on va parler de cette coopérative, de son intérêt pour vous. Hein. Elle a été créée en 1942, elle a donc 80 ans cette année. À l'époque, 650 sauniers participent, hein, sur l'île. L'activité est florissante. florissante, on est quand même en pleine guerre, mais la nécessité de s'unir et de se soutenir a très vite été donc comprise, et ça a été le propos et le premier objectif de la coopérative.
C'est ça, oui. En fait, il y avait quand même toute cette problématique des producteurs qu'on a finalement encore toujours aujourd'hui, qui est pas forcément que dans le domaine du sel d'ailleurs, mais qui est cette problématique d'avoir accès au client final, celui qui va réellement consommer votre produit. On peut pas être partout. Alors justement, les indépendants dont je parlais sur le sel peuvent vendre une grande partie de leur production aux touristes de passage le long des routes, donc ils ont vraiment un accès direct à leur client, mais sinon en fait c'est difficile, il faut passer par des distributeurs, d'autant que sur le sel c'est pas comme des tomates, on peut pas tous décider de faire du sel au bout de son jardin comme de faire des tomates, donc la notion de circuit court ça marche pas vraiment pour le sel. Il y a des endroits spécifiques où on peut le faire, mais pas partout, et du coup on a forcément des intermédiaires avant de toucher le client final, et ces intermédiaires là si on est tout seul face à des gros négociants, le rapport de force pour pouvoir négocier des prix qui permettent réellement de vivre, il est difficile, alors que quand on est réunis ensemble en coopérative, forcément on représente des volumes importants qui intéressent les distributeurs, et donc on a plus de poids pour pouvoir discuter des tarifs.
Et justement, la coopérative a pris du poids au fil du temps. Depuis la fin de la guerre, la coopérative a connu plusieurs vies, plusieurs étapes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qu'elle représente? Les années 2010, donc avant votre arrivée, ont quand même été importantes, elles ont marqué un tournant sur la notion de coopérative, maître de son destin.
Absolument, c'est qu'en fait, pendant il y a eu des phases très, très difficiles pour la coopérative, puisque avec l'industrialisation croissante, l'arrivée après la guerre des réfrigérateurs, ce qui fait qu'en fait le sel qui était utilisé beaucoup, pas seulement en consommation directe mais en moyen de conservation, le besoin a chuté. À côté de ça, il y a eu des manières de faire du sel beaucoup plus industriel mais automatisé qui se sont développées, donc il y a eu des passages délicats, et quand on est revenu un peu à flot dans les années 90 où ça a commencé à bien repartir, là finalement la coopérative était plutôt une coopérative d'apporteurs, c'est-à-dire qu'en fait on avait un client unique qui était Eurial à l'époque, et après finalement quand Eurial a décidé de se séparer dans les années 2010 de la société qu'il avait créée juste pour pouvoir commercialiser le sel, voilà, ça a posé une grande question aux coopérateurs, qu'est-ce qu'on fait? Et là donc il y a eu une décision très courageuse prise par les coopérateurs à ce moment-là, justement, qui a été de dire on va pas se attendre et voir ce qui se passe, en fait on va nous-mêmes racheter cette société-là, ce qui fait que maintenant en fait il n'existe plus la coopérative, c'est un ensemble unique qui va des producteurs jusqu'à la commercialisation sur différents clients, donc on maîtrise toute la partie conditionnement, transformation du gros sel en sel fin et négociation justement avec les clients. On a 200-300 clients différents, et donc on fait aussi cette commercialisation là.
Donc vous avez aussi dans la coopérative des salariés qui vont s'occuper de cette partie là parce que c'est pas forcément vous n'avez pas forcément le temps de prendre en charge toute cette partie là
absolument, on n'a pas le temps, et puis c'est aussi des compétences spécifiques aussi, particulières, ouais. C'est aussi l'intérêt d'une coopérative, c'est que justement on peut être un très bon saunier mais un très mauvais commercial, on peut être un très bon saunier mais pas du tout avoir envie d'aller dans des ateliers s'enfermer pour faire du conditionnement parce que c'est pas le même métier du tout, et du coup en coopérative on mutualise ces moyens là ce qui nous permet effectivement d'embaucher de manière pérenne sur l'île de Noirmoutier 27 salariés.
Voilà, je voulais vous demander, 27 salariés donc qui travaillent pour,
qui sont en CDI, donc avec de l'emploi stable, donc ça nous permet aussi d'ancrer de l'emploi stable sur l'île.
C'est important, hein, 27, votre force c'est évidemment cette belle solidarité et puis la qualité des produits de votre sel, avec un premier label rouge qui a été obtenu en 2020. La labellisation, il y a d'autres labels aussi, c'est une voie qui est incontournable, aujourd'hui ça fait sens aussi par rapport à votre travail, à votre production, mais c'est important par rapport aux consommateurs.
Oui, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas accès directement aux consommateurs. Quand on peut parler directement aux gens, comme là je le fais à la radio, c'est bien, quand on peut réussir à parler directement aux gens, on peut expliquer ce qu'on fait, et du coup on n'a pas besoin forcément de label, mais nous forcément il y a un intermédiaire. Quand vous allez dans le rayon de votre magasin, vous voyez plein de sels différents, et du coup comment vous savez la différence entre le sel qui est à votre gauche et le sel qui est à votre droite, qui ont des prix différents? Pour vous du sel c'est du sel, comment faites-vous la différence? Et du coup c'est en ça que les labels pour nous ça a un intérêt, c'est une manière de dire aux consommateurs qui sont intéressés, tout le monde n'est pas intéressé, mais de dire aux consommateurs qui sont intéressés sur ce qu'ils mettent dans leur caddie, si vous achetez celui-là, avec tel label, vous savez que tel label, ça veut dire telle chose, quoi. Donc le label rouge, par exemple, dont vous parliez, c'est un label qui certifie. Donc il y a des gens de l'extérieur qui viennent et qui certifient que le produit que vous faites, il est meilleur au goût. Il y a donc un jury hein, de gens qui testent. Il est meilleur au goût que du sel basique industriel. Donc là, c'est...
Et si on remarque, l'île de Noirmoutier, c'est forcément un sel qui a été produit manuellement, de manière artisanale sur l'île. Hein.
Oui, absolument. Parce que comme on est une île en fait de
oui.
Noirmoutier,
il n'y a pas d'industrie.
Voilà, on sait qu'il n'y a pas d'industrie. Et puis si quelqu'un qui n'est pas sur l'île de Noirmoutier voulait faire appeler son sel de Noirmoutier, on appellerait la DGCCRF.
Une question un peu bête, hein. Mais
non, mais c'est pas du tout, parce qu'effectivement, il y a eu des grosses questions aussi sur est-ce qu'on allait chercher une IGP ou pas dans les types de labels possibles. Et on a dit qu'en tout cas, pour l'instant, c'était pas du tout notre priorité, parce que justement, il y a d'autres sujets, on va en parler à Gréthique, sur lesquels on avait des choses à dire aux consommateurs. Alors que le consommateur, quand il voit Noirmoutier, pour le coup, il peut être sûr que c'est du sel de Noirmoutier.
On est d'accord. Vous avez en tout cas annoncé aussi ce nouveau label, qui est une première en France, et j'imagine votre fierté, on va expliquer tout ça. C'est le label, un commerce équitable français agri-éthique. Vous l'avez annoncé au CIAL, un salon important, c'était en début de semaine à Paris et vous y étiez, donc on saura tout ça. Donc dans quelques minutes, on va parler aussi évidemment du bio, hein, qui pose beaucoup de questions aux sauniers, producteurs et paludiers du secteur.
La suite dans 3 minutes, juste après 3 cafés gourmands sur Neuve.
Quand le printemps, c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
Dis, c'est quand?
L'égalité quand? C'est quand l'union de celles et ceux divisés pas si différents.
Dis, c'est quand? Mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.
Y'a que des gagnants dans ce
quand? La conscience quand? Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
Oui, mais quand? Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance? Ne plus jamais
demander quand?
C'est pour quand? C'est dans nos livres et nos chansons.
Mais c'est jamais là pour de bon.
Dis, c'est quand? Mais qui nous entend? L'accord, l'harmonie, la raison.
N'est-ce qu'un rêve, une illusion?
La fin du sang des gens.
Mais quand? La sagesse, quand? L'âge de raison, l'âge de courage.
Mais qui sommes-nous vraiment? Dis, c'est
quand? Le discernement, la prudence avant le jugement, un jour enfin plus tolérant, oui mais
quand? La justice quand?
Combien de discours en avant, demi-tour?
Quand? Moi j'ai plus le temps.
Le retour de ce trio et le titre est signé Goldman. C'est à l'instant quand 3 cafés gourmands sur Nov. Jusqu'à 13h, on y retourne là. Les rendez-vous de midi, on parle économie. Votre invité aujourd'hui, Emmanuel, vous recevez Elisabeth Wattebled.
Qui est présidente de la coopérative de sel de l'île de Noirmoutier. Une coopérative qui fait parler d'elle avec plusieurs actualités. Alors, on l'a pas encore évoqué. Ce Caulois record, cette montagne de sel qui s'est élevée comme jamais, je crois, à la fin de l'été, à l'issue de vos récoltes. Elisabeth, est-ce qu'on s'en réjouit de ce record où on pense quand même à ces chaleurs caniculaires qui ont joué évidemment un jeu important?
Alors c'est sûr que 5000 tonnes, c'est deux fois plus qu'une saison normale, on va dire. Donc c'est exceptionnel. S'en réjouir, je sais pas. Déjà, ça a été très éprouvant physiquement quand même pour les soigner, parce que on fait pas deux fois. Enfin, comme on travaille exclusivement à la main, faire deux fois plus de sel, ça veut dire travailler deux fois plus globalement. Hein. Il y a pas de gain de rendement lié à des machines ou
avec
autre.
Des chaleurs insupportables en voilà, plus en extérieur.
Donc c'était fatigant, c'était difficile aussi pour les marins qui ont aussi été éprouvés parce qu'ils n'ont pas non plus normalement cette habitude d'être avec des eaux aussi à ce point sursaturées. Hein. On ne sait pas bien ce que ça donnera l'année prochaine. On attend de voir du coup la façon dont les marais auront réagi à ça. Après, c'est sûr que on n'a pas besoin de ça, on va dire. C'est-à-dire que l'année dernière, qui était, si vous vous en souvenez, une année plutôt maussade, on avait quand même fait 3500 tonnes, donc au-dessus déjà des moyennes. Donc on n'a pas besoin que ce soit à ce point sécheresse et tout ça, donc on se réjouit pas du réchauffement climatique.
Non, pas du réchauffement climatique, mais bonne récolte.
Voilà, c'est ça. Mais on pourrait très bien fonctionner sans ce type de choses. Par contre, on sait que c'est potentiellement l'avenir. Que ça risque de continuer comme ça. Mais là-dedans, en fait, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait plutôt partie, on fait pas partie du problème, c'est pas nous qui avons un mode de fonctionnement qui continue à générer des problèmes de réchauffement climatique. Nous, on fait plutôt partie de la solution. Donc, on se dit, si on a plus de sel à vendre, on va pouvoir en mettre plus sur le marché. Et comme les gens sont aussi de plus en plus intéressés à faire attention à ce genre de choses, s'ils décident d'acheter le sel qu'on produit plutôt que du sel industriel qui, lui, est plus énergivore et donc justement lui par contre contribue au réchauffement climatique, quelque part on aura gagné quelque chose, on va dire. Donc,
alors justement, vous le faites savoir ça, cet engagement, cette volonté. Retour sur cette autre actualité, on l'a annoncé il y a quelques jours, la coopérative a un nouveau label. On a évoqué le label rouge, avant vous aviez aussi le label nature et progrès, et désormais le label de commerce équitable agri-éthique. Alors pourquoi il a été important, pourquoi vous l'avez cherché ce label? C'est une première aussi pour du sel en France?
Oui, c'est une première pour du sel en France. Et puis, donc la problématique des labels, hein, c'est effectivement de se dire comment j'arrive à communiquer auprès des consommateurs finaux que je vois pas, à qui je peux pas parler. Comment j'arrive à leur dire ce qui est important pour nous, ce qu'ils achètent quand ils achètent le sel. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est la qualité du produit, d'où le label rouge. C'est la protection de l'environnement, d'où le label Nature et Progrès. Et ce qui est important pour nous, c'est le respect de l'humain. Et donc, la façon dont on travaille en coopérative, en fait, ça correspond tout à fait à ce respect de l'humain, à ce respect des producteurs, puisque c'est les producteurs eux-mêmes qui décident de leur stratégie, de la façon dont ils vont être rémunérés, de la rémunération en tant que telle. Donc la coopérative en tant que telle est déjà en fait un vecteur de commerce équitable. C'est déjà du commerce équitable depuis du coup 1942, ou en tout cas c'est sûr depuis 2013. Mais les gens ne le savent pas forcément qu'une coopérative et le commerce équitable, c'est la même chose. Donc on est allé chercher ce label-là pour que justement les gens qui sont intéressés par ça, qui recherchent ce type d'achat éthique, sachent qu'en achetant le nôtre, effectivement, ça répond bien à cette problématique et à ce besoin sociétal.
Donc les consommateurs vont le découvrir, ce sera dès le début de l'année prochaine, avec un de nouveaux emballages, un vrai packaging 100% recyclable. Donc voilà, c'est la poursuite aussi de cet engagement.
Absolument, c'est en 2021, là, on a vraiment refait le tour de quels étaient les points sur lesquels on voulait avancer le plus vite possible, et sur les aspects environnement, donc ça fait partie de notre cœur, et sur les marais, en fait on est déjà au taquet. C'est difficile de voir ce qu'on pourrait faire de mieux pour préserver et protéger l'environnement. Donc en fait l'idée, c'était de cibler vraiment ce qu'on fait après, donc justement les emballages, et d'essayer de travailler. Donc on a travaillé plusieurs mois, hein, avec un bureau d'études pour qu'ils checkent un peu tous les emballages qu'on avait, et de voir sur chacun d'entre eux qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le faire mieux, quoi. Et donc on a réussi à trouver effectivement quelque chose, et on est très content.
Et ce seront donc 25 références de sel, hein, qui vont afficher le logo tricolore. Vous l'avez annoncé officiellement au CIAL, le Salon International de l'Alimentation. C'était à Paris, vous y étiez en début de semaine.
C'est ça, malgré les grèves, on a réussi à s'y rendre.
Et à revenir.
Et à revenir aussi.
Donc c'est un salon important.
Oui, c'est important. Moi, j'ai été impressionné par la taille du salon. Des fois, d'ailleurs, quand c'est immense comme ça, on se demande ce qu'on fait là, parce qu'on est quand même tout petit, hein, faut être clair. Mais cela dit, on a fait quand même de très belles rencontres. Et comme justement, maintenant qu'on a un peu plus de salles, puisque ça fait plusieurs années qu'on a des très bonnes années, on sait qu'on peut effectivement aller chercher des clients supplémentaires qui font de la boulangerie ou tout ça, et qui étaient présents au CIAL, et donc avec qui on peut discuter et monter des partenariats potentiellement.
C'était cette semaine. Alors, un autre sujet brûlant d'actualité. Il nous reste deux minutes, c'est le fameux label bio avec cette réglementation européenne qui arrive. Elle est attendue, mais elle ne fait pas l'unanimité. On en parle depuis des semaines maintenant. Et sur France 3, Pays de la Loire, aujourd'hui, je crois même, le président de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique, récolté manuellement, donc j'imagine que vous en faites partie, Christophe Anaem, qui travaille lui à Guérande, exprime des inquiétudes. Je cite, je n'ai rien contre les sels de mine ou les sels industriels, il en faut pour tout le monde. Mais sur le bio, il y a un enjeu. Là, en 1 minute 30, Elisabeth, voilà l'enjeu de ce label bio qui est annoncé, qui était attendu, mais qui n'est pas du tout celui que vous estimiez important pour la production de sel.
Oui, c'est ça. Donc déjà, effectivement, on fait partie de cette association, hein, et j'en suis la vice-présidente. Et effectivement, on se bat depuis un bon moment, parce que c'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait du sel, que le sel pourrait devenir bio, hein, puisqu'en fait, c'est le règlement européen ne permettait pas ça, et maintenant il le permet, sauf qu'il faut écrire le cahier des charges pour dire c'est quoi du sel bio. Et à ce moment-là, un peu naïvement, on s'est dit, nous on sait qu'on coche toutes les cases de ce qui peut être bio, donc on s'est dit, nous on sera bio, et puis ceux qui font du sel qui n'est même pas du sel agricole, hein, quand on va creuser dans une mine, on dit pas que le charbon c'est une énergie renouvelable, donc on n'imaginait pas qu'on puisse dire que du sel qui vient du même endroit, d'une mine, soit bio. Mmh. Et là en fait, c'est en train de partir complètement dans tous les sens. Le risque, bien sûr, c'est que du coup, les gens croient au label, et à mon avis, ils ont raison d'y croire, mais encore pour ça, faut-il que les labels soient crédibles. Et là, le risque, c'est qu'effectivement, sur un même rayon, vous vous retrouviez avec deux sels côte à côte qui soient bio, mais un qui sort d'une mine de sel à pas cher, fait par des bulldozers, lavé derrière.
Ouais, en plus, c'est ça, tous les produits qui ont été utilisés derrière pour le blanchir.
Et que nous, on se retrouve sur le même rayon avec de la production manuelle. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que les gens, effectivement, cherchent quand ça va sortir. Il faudrait que les gens soient vigilants à pas juste se dire, c'est bio, c'est bien, mais à se reposer les questions sur quels sont les autres impacts, on va dire.
Quand on voit du bio sur une boîte de sel, c'est pas le sel qui est bio, hein.
Non, parce qu'actuellement, le sel ne peut pas être bio. Donc, quand on voit sel, en général, c'est sel aux herbes bio.
Sur les herbes.
Donc, c'est les herbes qui sont bio.
C'est important aussi de le préciser. J'avais encore plein de questions, mais il est 13h. Mais écoutez, vous êtes passionnante, Elisabeth. On pourrait faire une autre émission. Juste pour terminer, le sel là, qui a été récolté cet été, on le retrouve quand sur les étals?
Sûrement dans 3-4 ans, parce que justement, on a toujours du stock d'avance, parce qu'il y a des années qui sont très bonnes, mais il y a aussi des années dans lesquelles on fait zéro en production, et il faut qu'on soit capable de fournir du sel à tous les consommateurs. L'idée, c'est que vous ne soyez pas en rupture de sel dans les rayons, quoi.
Donc c'est important, ce stock. Mais écoutez, merci beaucoup, et puis on va suivre ce logo tricolore qui va arriver en 2023 dans des packagings 100% recyclables. Il viendra donc de l'île de Noirmoutier.
Très bien, parfait. Merci. Merci. À bientôt, Elisabeth.
Merci, au revoir.
Merci de votre venue. Demain, dans les rendez-vous de midi, ce sera avec Nicolas.
Oui.
Océan Marinement, avec tout plein de rendez-vous et d'activités pendant ses vacances.
À Rodavio, à Bitopia, voilà. Musée Milsando. Entre autres. Et la microfolie.
Demain, ce sera évidemment sur Neuve, dans les rendez-vous de midi. À 12h35, l'émission podcast dans quelques petites secondes. À tout à l'heure pour la bonne nouvelle. À tout de suite, après les infos pour la musique. Ritza, Benjamin Biolay, puis le groupe Oasis sur Neuve.